Radio Okapi.
Au sommaire de ce journal, lutte contre Ebola en RDC, l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement congolais réaffirment leur engagement à protéger la santé des populations. Dans un communiqué conjoint, les deux parties disent mettre ensemble les stratégies pour stopper rapidement la chaîne de transmission de l'épidémie. Dans les Kwilu, on en sait désormais un peu plus sur le naufrage survenu samedi dernier sur la rivière Kwilu, près de Bagata. 11 morts, des disparus et 47 rescapés. C'est le bilan provisoire du chavirement de la baleinière HB Kabuki, selon les autorités locales. L'invité de ce journal est le chef de division provinciale de l'urbanisme du Haut-Katanga, Apollinaire Tshibanda, dénonce ce qu'il qualifie de création précipitée à Lubumbashi du guichet unique de l'octroi de délivrance des permis de construire. Merci d'être avec nous, Pierre Diassinois, assure la technique, et devant ce micro, Jean-Désiré Kanyama. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je le disais tantôt, épidémie d'Ebola en Ituri, le gouvernement congolais et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, réaffirment leur engagement à protéger la santé des populations. Dans un communiqué conjoint du 31 mai dernier, les deux parties disent avoir intensifié la surveillance, les analyses de laboratoire et la prise en charge des patients. Objectif, couper le plus tôt possible la transmission de la maladie. Plus de détails avec Martial Kizabiamungu.
Dans ce document, les gouvernements de la République démocratique du Congo et l'Organisation mondiale de la santé s'inquiètent de l'évolution rapide de cette maladie avec des cas suspects ou confirmés et des décès signalés dans plusieurs zones de santé de l'Ituri, dont le Nord Kivu et du Sud Kivu. Les gouvernements, avec l'appui de l'OMS et des partenaires, intensifient la surveillance, les analyses des laboratoires et la prise en charge des patients afin d'interrompre la transmission du virus. Toujours dans les mêmes communiqués, l'OMS, aux côtés du système des Nations Unies dans son ensemble et des partenaires de la santé et des humanitaires, s'est dit pleinement engagé à soutenir ses efforts. Ils reconnaissent cependant que parmi les défis persistants figurent la détection précoce et l'isolement des cas, la recherche des contacts, les enterrements sûrs et dignes, les renforcements des mesures de prévention et de contrôle des infections des établissements de santé ainsi que la sensibilisation accrue des communautés. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et dans le Congo central, après plus de 2 ans, les habitants du village Kinzaou, dans la commune de Matadi, ont encore accès à l'eau potable. Grâce à un forage moderne réalisé par le Centre de développement communautaire, la population dispose désormais d'une source d'eau potable. Cet ouvrage d'intérêt communautaire a été inauguré samedi dernier par le bourgmestre de la commune. Les détails dans ce reportage signé Élise Kavira.
Selon les habitants de ce village situé à la périphérie de Matadi, trouver un simple bidon d'eau relevait d'un véritable parcours du combattant. Roger Nimi, vivant dans ce village depuis plusieurs années, en témoigne.
Nous recevons de l'eau de la régie des eaux, mais parfois nous pouvons faire 4 mois sans eau. Et quand on reçoit pendant 2 ou 3 jours, c'est réparti encore pour des mois à 5. Mais depuis qu'on a reçu ces forages, en tout cas, l'eau jaillit en abondance.
Pour Mama Suzaki Temoki, épouse du chef du village, voir ce forage est la réalisation des rêves. Elle nous partage sa joie après autant d'années de souffrance.
L'année passée, quand les bourgmestres étaient venus dans notre village, ils nous avaient demandé de quoi nous avions besoin. Nous lui avons fait savoir que notre besoin le plus urgent, c'est l'eau. Il fallait parfois marcher dans la boue, c'était difficile.
Maman Suzanne, communément appelée Maman Chef, n'a pas manqué d'inviter les habitants du village Kinzaou à bien prendre soin de ces nouveaux forages pour le bien de tous.
Mes frères et sœurs de Kinzaou, prenons bien soin de cet ouvrage qui nous est donné. C'est pour nous tous. Si nous en prenons soin, ça va aider même les générations à venir.
Les habitants de Kinzaou village appellent les autorités à rétablir l'électricité dans leur village qui est dans l'obscurité depuis plusieurs mois afin de permettre le fonctionnement continu de ce forage. Matadi, Élise Kavira, Radio Okapi.
Je le disais au sommaire, un nouveau naufrage s'est produit samedi dernier sur la rivière Kwilu, près du territoire de Bagata. La baleinière HB Kabuki a chaviré, provoquant la mort de 11 personnes et laissant 47 rescapés, selon les autorités locales. Le député national Gary Sakata, élu de Bagata, indique que plus de 50 passagers demeurent portés disparus. Tandis que les opérations de recherche se poursuivent, l'embarcation partie du port de Sangui dans les territoires de Massimanimba a sombré dans des circonstances encore indéterminées. Plusieurs survivants évoquent une possible surcharge, une hypothèse qui devra être confirmée par les enquêtes en cours. Gary Sakata s'exprime au micro de Jean-Claude Tangamou de la radio communautaire Bandundu Développement.
Au bord de cette baleinière, selon les informations, et le manifeste l'indique bien, il y avait 150 passagers. Et à ce jour, on dénombre qu'il y a 47 rescapés. Il y a 11 morts retrouvés et les autres, dont la cinquantaine, sont introuvables. Cette situation est dramatique et appelle au balisage de rivières Kwilu et Inzia. Mais en attendant, les autorités locales ont appelé au secours, notamment la RVF et l'ONATRA pour accéder à ces lieux en vue de rechercher des éventuelles victimes qui seraient encore sous la baleinière qui s'est totalement renversée. La baleinière appartient à un certain Zungu Edi du village Bualayulu dans les territoires de Mokamo. Et cette baleinière est totalement naufragée et donc irrécupérable, ainsi que toutes les marchandises qui s'y trouvaient.
Notez que ce nouveau drame fluvial relance les débats sur la sécurité de la navigation sur les voies du Kwilu, où les accidents d'embarcation continuent de faire de nombreuses victimes. La situation est restée tendue ce lundi dans plusieurs villages des territoires de Walikale et de Masisi dans la province du Nord Kivu. C'est après les affrontements et opposés tout au long du week-end les rebelles de l'AFC M23 aux coalitions Wazalendo, Alio et FARDC. Selon des sources locales, de nombreux villages ont été désertés par leurs habitants. Les détails avec vous, John Tiboaboa.
Un calme relatif est signalé ce lundi dans le village de Yaki, situé entre Kachéber et Emiba, dans le groupement des Lubarike, territoire de Walikale. La localité a été toute la journée de dimanche le théâtre des violents combats entre la FC M23 et les combattants Wazalendo du groupe NDC rénové de Guidon Chimirai. D'après des notables locaux, des tirs ont été de nouveau entendus le même dimanche aux environs de 23h à Kasopo, sur l'axe Mahanga, dans le groupement de Banyungu, territoire voisin de Masi. Par ailleurs, des affrontements ont été signalés tout au long du week-end sur les axes Rubaya et Nyabiondo dans le même territoire. Les combats ont notamment concerné les villages d'Endete, Mulema et Luke dans les groupements de Nyamaboko 1, secteur de Osobanyungu ainsi que Kaseni et Mbinzo dans les groupements de Kibabi en chefferie de Baoundé à proximité du secteur de Katoi. Depuis plusieurs semaines, cette zone est le théâtre des violences armées récurrentes aggravant la crise humanitaire. Le nombre des villages abandonnés ne cesse d'augmenter, tandis que les activités scolaires et socio-économiques sont fortement perturbées.
Et toujours au Nord Kivu, la protection civile dans la région de Beni recommande au gouvernement de prendre très au sérieux la situation sécuritaire qui prévaut dans cette zone. Cette réaction intervient après l'attaque attribuée aux rebelles des ADF dans la nuit de samedi dernier, attaque qui a fait au moins 19 morts en Gadi ainsi que dans les entités agricoles de Vemba, situées à une vingtaine de kilomètres au nord-est de la ville. Écoutez à ce sujet le coordonnateur de la protection civile dans la région de Beni, Jean-Paul Kapitula, est au micro de Marc Marofimbo.
Depuis le 15 octobre 2014, la population de Gadi se souvient toujours du macabre massacre qui a été fait en Gadi, où plus de 38 personnes ont perdu la vie. Aujourd'hui, la même plaie béante saigne de plus. Plus de 6 pygmées et autant de bantous qui sont tués du même mode opératoire, au même endroit. Ça fait vraiment la tristesse. C'est vraiment une recommandation que nous adressons à tous les niveaux. Au niveau du gouvernement central, de ne pas prendre la question du terrorisme qui est dans la zone de Beni, comme on dirait que ce sont des cambrioleurs qui entrent dans la maison. Ils doivent prendre au sérieux cette question. Parce qu'on ne sait pas s'il faut combien de personnes qui doivent mourir pour que cette question soit résolue complètement. Mais aussi la population, nous la supplions de continuer à envoyer les alertes en temps opportun. C'est le moment de nous unir, de nous poser la question, qu'est-ce que nous n'avons pas fait et qu'est-ce que nous devrions faire et qu'ensemble nous puissions nous souder pour combattre cet ennemi commun.
Notez qu'hier dimanche, les forces armées de la RDC ont demandé à la population agricole de quitter toutes les zones de Vemba où des opérations de poursuite de l'ennemi sont en cours. Sous un autre chapitre, l'inspection générale de la police nationale congolaise vient de procéder à une dotation en matériel et en équipements médicaux aux éléments de la police nationale congolaise à Uvira et à Fizi, dans la province du Sud Kivu. C'est afin de renforcer leurs capacités opérationnelles et améliorer leurs conditions de travail. Nombreux d'entre eux ne disposaient plus d'uniformes dignes de leurs fonctions. Des détails avec Jean Kassami.
Cette dotation apporte un plus aux policiers dont la plupart avaient perdu le gros du matériel et de médicaments au plus fort moment de la guerre. Aujourd'hui, cette page est tournée avec la dotation le week-end dernier de nouveaux équipements en matériel et en médicaments. Docteur Serge Lutumba dirige l'hôpital de la police LSK.
L'hôpital a été vandalisé au mois de février de l'année passée. L'hôpital a été encore vandalisé pour la deuxième fois. Quand les M23 fouillaient Uvira, ils nous ont encore pillé tout ce qui nous avait été donné comme médicament dans une zone opérationnelle. Nous avons la capacité de tout faire pour le moment.
Dotation en médicaments, mais aussi en tenue et autres matériels de la police. Les bénéficiaires promettent l'amélioration de leurs prestations au service de la population civile.
Nous travaillons presque sans tenue, mais aujourd'hui nous avions eu une tenue complète, une équisseau, des bottes. Et pour cela, nous pensons que le travail peut se faire déjà dans de bonnes conditions. Ce que nous avions remarqué, il n'y a pas l'insigne de la police sur toutes les tenues qu'on nous a dotées. Il n'y a pas aussi les webs.
Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Dans le registre politique, avec les débats autour de la révision ou du changement de la Constitution, la voix des sans-voix pour les droits de l'homme appelle les acteurs politiques à privilégier l'apaisement. La VSV s'inquiète notamment des appels à des manifestations concurrentes annoncées aux mêmes dates par des camps politiques opposés, une situation qu'elle juge susceptible d'alimenter des tensions et des affrontements. Dans une déclaration rendue publique hier dimanche à Kinshasa, la voix des sans-voix demande aux autorités d'assumer pleinement leurs responsabilités en garantissant la liberté des manifestations tout en assurant la protection des personnes et des biens. On écoute à ce sujet Rostem Manketa, directeur exécutif de la VSV, dans ses propos recueillis par Grâce Hamzati Massanzi.
La voix des sans-voix pour les droits de l'homme demande aux organisateurs des manifestations de respecter la liberté de chaque Congolaise ou de chaque Congolais à participer ou pas à une manifestation. En effet, nul ne peut être contraint ou forcé à prendre part à une manifestation sous divers prétextes que ce soit, et ce, conformément aux instruments juridiques nationaux, régionaux, internationaux des droits de l'homme. Tout compte fait, la voix des sans-voix pour les droits de l'homme demande aux autorités congolaises à assurer la protection des manifestants, des biens privés et publics, tout en maintenant l'ordre public avec impartialité. La police doit agir avec impartialité sans se ranger derrière un camp quelconque. Aux organisateurs de manifestations d'adopter un discours responsable envers les militants ou autres sympathisants en évitant toute incitation à la violence.
Et tout à fait autre chose à présent, dans la province du Maniema, la Fondation Lukuru, en partenariat avec l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, ICCN, poursuit son combat pour la protection des perroquets et la lutte contre les trafics illicites de ces espèces totalement protégées. Plus de 40 perroquets gris ont été relâchés hier dimanche de leur habitat naturel. C'était en présence de plusieurs personnalités. Florence Kizalunga, reportage.
Cette cérémonie de relâchement a coïncidé avec la célébration de la Journée mondiale des perroquets le 31 mai. À cette occasion, le ministre provincial de l'Environnement, Mutoro Tambwe Josué, a salué les travaux accomplis par la Fondation Lukuru et mis en garde les trafiquants de perroquets.
Ceux qui capturent les perroquets doivent savoir que les perroquets sont totalement protégés par les lois. Mais ces gens-là s'évertue à défier l'autorité de la loi en capturant les perroquets et en les commercialisant. C'est ainsi que nous leur lançons un message qu'ils sachent qu'ils ne seront jamais en paix s'ils continuent à défier les lois de la République en capturant et en commercialisant les perroquets.
Pour sa part, la directrice de la Fondation Lukuru, Thérèse Hart, a rappelé que l'objectif de son organisation est de réduire de manière significative la capture de ces oiseaux.
Il y a un grand marché pour le perroquet gris à l'extérieur. Donc notre souhait, avec une diminution de la capture, il y aura une diminution de besoins pour une telle centre. Et ça, c'est notre souhait.
À ces jours, grâce aux actions de la Fondation Lukuru, plus de 400 perroquets saisis des mains de trafiquants ont déjà été relâchés dans la nature. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Gabon, la vente dans les rues et les marchés des jus Bissap Des gingembres et des glaces connus sous l'appellation les cahiers est désormais suspendu. La décision a été prise par l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, AGASA, qui évoque des raisons sanitaires et des protections des consommateurs. Mais la décision qui est tombée comme un coup péré est assez critiquée. Et puis, ce 1er juin 2026, des millions d'Éthiopiens se sont rendus aux urnes partout dans le pays pour des élections législatives qui consacreront l'élection du Premier ministre. Excepté au Tigré, région du Nord ravagée par une guerre achevée en 2022, où le scrutin n'aura pas lieu.
L'invité.
Il s'agit du chef de division provinciale de l'urbanisme du Haut-Katanga. Apollinaire Tshibanda dénonce ce qu'il qualifie de création précipitée dans la capitale coprifère du guichet unique de l'octroi de délivrance des permis de construire. D'après lui, l'implantation de ce guichet unique à Lubumbashi n'a pas respecté la procédure légale et ce service devrait dépendre de la division provinciale de l'urbanisme. Apollinaire Tshibanda s'entretient avec Paul Emunanga.
Monsieur Apollinaire Tshibanda Chamwana, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Le traitement des dossiers des permis de construire est au centre d'une controverse depuis plusieurs mois entre la division provinciale de l'urbanisme que vous dirigez et les guichets uniques d'octroi des permis de construire. Qu'est-ce qui se passe exactement?
D'entrée de jeu, les guichets uniques des permis de construire pour la délivrance des permis de construire est une structure qui a vu jour au sein de notre ministère. Pas seul, non, mais avec deux autres structures, FONAB et ACOPRIM. Il se peut que cette structure a été récupérée rapidement sans que tous les éléments participant à la question ne soient pas réalisés. Voilà ce qui fait que les guichets uniques pour la délivrance du permis de construire, GUPEC, pose problème. Pourquoi? Parce que GUPEC n'a pas un manuel de procédure. Mais comment ces guichets peuvent fonctionner?
Ce manuel-là de procédure, c'est quoi au juste?
Le manuel de procédure, c'est un arrêté. C'est cet arrêté-là qui fixe les modalités de calcul afin de pouvoir aboutir à la taxation. Comment on peut taxer si on n'a pas les chemins, on n'a pas les soubassements, on n'a pas la voie qui vous montre qu'une bâtisse de telle superficie, il faut taxer à autant. Voilà, c'est ce manuel de procédure-là.
Donc, d'après vous, les guichets uniques d'octroi des permis de construire a été précipité. Donc, il y a une procédure qui n'a pas abouti.
Évidemment, ça n'était pas opportun que ces guichets commencent à se déployer parce que ils n'ont pas un manuel de procédure, ils n'ont pas un article budgétaire. En soi, ces guichet-là est doté d'une personnalité juridique et ils ont l'autonomie de gestion. Le décret faisant jour ces guichets a donné deux missions principales. La première mission, délivrer les permis et la deuxième mission, numériser ces permis. Les numériser, néanmoins, cela doit être fait en présence d'un arrêté interministériel entre les ministères de l'urbanisme et les ministères du numérique. Cet outil n'existe pas. Mais comment voulez-vous que ces guichets puissent fonctionner? Vous avez suivi les discours du chef de l'État, le garant de la nation, lors de son adresse à la nation, devant les deux chambres réunies, il a bien dit, les guichets est en phase d'expérimentation à Kinshasa et ça sera déployé dans les grandes villes ultérieurement. Néanmoins, après l'approbation du nouveau code de l'urbanisme et des constructions.
Est-ce que le nouveau code de l'urbanisme est déjà en vigueur?
Non, ces codes-là, son examen n'est pas encore présenté à l'Assemblée afin que ça soit exécuté. Mais comment voulez-vous que ces guichets est en train de faire les choses qui ne sont pas exactes sur terrain?
Est-ce que votre division provinciale de l'urbanisme traite jusqu'à présent les dossiers ayant trait au permis de construire?
D'abord, nos amis de Québec doivent comprendre, ils doivent rester dans l'esprit de leur décret. Délivrer les permis et le numériser. La division provinciale de l'urbanisme ne délivre pas les permis. Parce que nous savons que l'autorité compétente pour la délivrance du permis, c'est l'autorité politico-administrative. Les ministres nationaux à Kinshasa, les gouverneurs des provinces en province, et si les gouverneurs lèguent son pouvoir au chef de division, cela est possible. Qu'est-ce que l'urbanisme fait? L'urbanisme fait l'inspection sur terrain, parce que c'est ça son apanage. Après inspection, l'urbanisme traite les opérations du dossier pour aboutir à la délivrance ultérieurement.
Et sur le terrain, est-ce que les agents de l'urbanisme sont toujours là pour traiter ces dossiers-là, des permis de construire?
Évidemment, mais l'urbanisme, son rôle, c'est l'organisation de l'espace. D'ailleurs, les permis ne doivent pas être délivrés d'une manière désordonnée. En amont, il doit y avoir un avis urbanistique attestant que le site qui abrite la construction, c'est un site viable. L'urbanisme émet un avis. Et cela, c'est le contrôle des routines de l'urbanisme, en fait, sur terrain.
Et quel rapport y a-t-il entre la division provinciale de l'urbanisme que vous dirigez et les GUPEC?
Mais c'est un guichet, c'est une cellule de l'urbanisme. Ils doivent être à côté. L'urbanisme fait l'inspection, descend sur terrain, constate les infractions, oriente l'occupation d'espace. À ce moment-là, l'urbanisme transmet les dossiers au guichet pour la délivrance et numérisation, comme le décret leur donne ces missions-là.
Monsieur le chef de division Apollinaire Tshibanda Chamwana, je vous remercie.
Notre invité, le chef de division provinciale de l'urbanisme du Haut-Katanga, Apollinaire Tshibanda, s'entretenait à Lubumbashi avec Paul Emunanga. Ce journal est à présent terminé. Il a été supervisé par Alain Irung et coordonné par Élisée Tikota. Pierre Diassinois a assuré la technique. À leur nom, je vous dis merci de l'avoir écouté. Vous pouvez les retrouver sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.